Je sais pourquoi je suis entrepreneur aujourd'hui. Je suis entrepreneur parce que j'adore apprendre et me mettre constamment dans cette situation d'humilité forcée où il faut se dire bah là, je ne maîtrise pas, je dois apprendre des meilleurs. Le recrutement, je pense que ça fait partie des trois métiers fondamentaux de l'entrepreneur.
Comment, selon toi, créer une culture où les personnes de l'équipe, entre elles, vont se faire du feedback?
Je pense qu'on a toujours besoin de progresser, quel que soit son âge, quelle que soit sa maturité dans le business, sa maturité d'entrepreneur ou de professionnel.
Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement sur ton parcours?
Oui, bien sûr.
L'expérience précédente qu'on va bien creuser et la nouvelle qu'on va aussi creuser.
Ma particularité, c'est que je suis né dans une île du Pacifique qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, qui est une île française, okay. De l'autre côté de la Terre. Et par contre, j'ai grandi tout près des volcans français au centre de la France, pas loin d'une ville qui est le berceau d'une marque très célèbre de pneus qui s'appelle Michelin. Et donc, j'ai vécu à Clermont-Ferrand toute mon enfance et mon adolescence. C'est là que j'ai passé mon bac et c'est là aussi que j'ai intégré mon école de commerce.
Okay.
Donc, je suis très attaché à cette région, c'est pour ça que je fais une petite digression là-dessus. Et c'est une part importante de mon parcours. Pour plein de raisons, évidemment.
Qu'est-ce que tu aimes dans cette région?
Moi, j'aime l'attachement, en fait, à cette nature qui est à la fois fascinante et forte. Mon associé chez Stikiaz, Hervé, qui a fait récemment une randonnée, et il est passé par ma région, il m'a dit, il m'a envoyé un message, il m'a dit vraiment, tu as vécu dans une région magnifique. C'est facilement une région où tu sens la force que dégage cette géographie avec d'anciens volcans qui ne sont pas encore tout à fait éteints, même s'ils ne sont plus en activité. Et on va dire la proximité terrienne de la population auvergnate qui fait que ouais, c'est difficile de ne pas être très attaché en fait, à cet environnement-là. Au-delà des racines de l'enfance, les amis, etc. Je pense que vraiment, c'est un truc qui peut te prendre au corps. Moi, j'emmène mes amis régulièrement là-bas et à chaque fois, ils ont la même réaction. Ils ne s'attendent pas à avoir cette réaction-là.
Tu vas améliorer le marketing de la région.
Oui, complètement. J'ai travaillé avec eux. Et donc, voilà, épisode Clermont. Ensuite, grâce aux relations qu'avait l'école de commerce de Clermont avec pas mal d'universités américaines, j'ai pu faire un MBA à Georgia Tech, à Atlanta. En fait, c'était important dans mon développement parce que c'était au tout début des années 90. Mais en fait, c'est un moment où Internet débutait. Et donc, j'ai découvert, en arrivant sur le campus américain à Georgia Tech, j'ai découvert ce qu'était qu'un email, parce qu'on m'a dit, ben, tiens, on va te filer un email avec un point édu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. En fait, ça a été le début de un petit peu mon aventure dans le monde Internet.
Ça a créé une forme de fascination pour la tech, ça.
Déjà, c'est dingue de se dire qu'il y a un moment où il n'y avait pas d'Internet, où on n'avait pas de téléphone, et bon, c'est mobile. Ça crée une curiosité, en tout cas. Surtout que Georgia Tech, c'est une université plutôt connue pour sa spécialisation en tech et en computer science. Je suis resté un an. C'était une année très, très intense parce que l'échange était fait de cette manière. Je vais prendre 75% des crédits que tu dois acquérir en 2 ans pour un MBA en une année. Tu rajoutes là-dessus l'accent du sud des États-Unis avec lequel il faut se familiariser. C'est une expérience intense, mais c'était fabuleux.
Tu as dû ressortir quasiment bilingue en un an comme ça.
Ah, tu ressors bilingue. J'ai beaucoup monté mon niveau en basket aussi parce que... C'est une université connue en basket et à l'époque, je jouais pas mal.
En plus, à cette époque-là, Michael Jordan, il devait être dans la phase vraiment...
Mais c'était l'année de son retour, en fait. Quand il est revenu avec le numéro 45, j'ai eu la chance de le voir jouer en live. Donc, j'étais pas très près, hein. J'étais pas à 2 mètres de lui, mais je l'ai vu, rien que de le voir, même à une distance, quand tu es au fond d'un stadium et que lui, il est sur le terrain, tu peux reconnaître que c'est lui, c'est ça qui est dingue. Ça, c'est une expérience marquante qui fait que le sport, ça a toujours été aussi un marqueur important dans mon développement d'homme et d'entrepreneur. J'ai enchaîné avec une dizaine d'années dans les grands groupes, dans les télécommunications. Donc là, j'ai développé des compétences de super vendeur à l'international, en ce qu'on appelle le B2B, donc on a des grosses sociétés avec des contrats très importants pour leur business.
Quand tu dis super vendeur, c'est dans le sens que tu faisais partie des meilleurs vendeurs de...
Je sais pas, c'est pas à moi de le juger ça. En tout cas, je faisais partie de ces spécialistes de la vente à des grosses sociétés où quand tu te retrouves à vendre, ce qui est le plus important pour eux parce que c'est ce qui leur permet de faire du business. En l'occurrence, je vendais à des opérateurs télécoms leurs infrastructures de télécommunications. Donc au tout début, le montage des réseaux mobiles, les tout premiers, le GSM. Et ensuite, tout ce qui était réseau haut débit pour qu'on ait tous Internet à la maison, ça, c'est des infrastructures qu'il fallait vendre aux opérateurs. C'est crucial pour eux et c'est des ventes très, très complexes et très stratégiques. Donc, j'ai appris à faire ça, super vendeur, parce que à l'époque, c'était les métiers probablement les plus à la pointe en termes de technologie. Hein. On était un petit peu à la frontière entre ce qu'on connaît maintenant comme start-up et la haute technologie, avec vraiment de la grande innovation dans les solutions que tu vends. C'était un peu dans cet environnement que c'est même complètement cet environnement que j'ai fait mes classes, quoi. Et ensuite, me retrouver dans cet environnement-là, je me suis dit qu'il y avait une étape ultime que j'aimais franchir, c'était de devenir entrepreneur. J'ai toujours eu cette flamme en moi où je me disais, tiens, quitte à prendre des risques, à travailler énormément, à être très engagé dans ton travail, pourquoi pas le faire pour toi et tenter le pari qui me paraissait être le pari ultime, c'est de travailler pour soi, entre guillemets, même si on ne travaille jamais vraiment pour soi quand on a des actionnaires, etc. Donc, c'est ce qui m'a mené à ensuite monter ma première boîte Sticky Ads en 2009 dans le domaine de la publicité et des médias. Et puis aujourd'hui, de remonter notre société, puisque j'ai vendu la première en 2016. Et là, maintenant, je me relance dans un autre pari entrepreneurial, différent du premier. Moi, je suis entrepreneur. C'est un petit peu la conclusion de l'intro. Je sais pourquoi je suis entrepreneur aujourd'hui. Je suis entrepreneur parce que j'adore apprendre et me mettre constamment, on va dire, dans cette situation d'humilité forcée où il faut se dire, là, je ne maîtrise pas, je dois apprendre des meilleurs. Et je veux être le meilleur dans un domaine nouveau, c'est ce qui me pousse à être entrepreneur et à aimer ça, en fait.
J'aimerais qu'on revienne sur ta rencontre avec Smart Clip en 2009 et Jean-Pierre Fumagalli, et qui vous fait une promesse. Tu peux en parler ?
Ouais, écoute, quand on a monté Sticky Ads en 2009, très très tôt, je rencontre mon associé, je suis avec mon associé Hervé. On rencontre un acteur de l'industrie de la pub et des médias qui a la même ambition que Sticky Ads. C'est-à-dire devenir le leader européen de ce qu'on appelait la publicité vidéo à l'époque, pour faire très simple. Il demande à nous rencontrer, en fait. Smart Clip, c'est une société allemande qui avait déjà envisagé de venir en France pour lancer son activité. Et vu qu'il nous avait identifié comme aussi un acteur qui pouvait se monter dans le domaine, il nous a demandé à nous rencontrer.
Tu es content à ce moment-là de te dire, tiens, il veut nous rencontrer?
Oui, c'est flatteur. Je suis content et intrigué. Ça flatte l'ego, évidemment, parce que tu es au début d'une aventure. Hein. Effectivement, c'est moins d'un an que tu es monté et tu as un acteur du marché qui a déjà quelques années d'antériorité dans le business, qui a pas mal de crédibilité aussi dans l'entrepreneuriat et dans la publicité digitale. Et donc voilà, donc c'est assez flatteur. Après, c'était une belle passe d'armes. Je pense que c'est là que tu vas en venir parce que, en fait, le deal a été très, très marquant puisque c'était une conversation rapide où il nous a dit, bon, c'est simple, soit vous montez votre truc, la Sticky Ads, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être vous défoncer en tant que concurrent. On dit, OK. Soit dans deux jours, on se rappelle et vous dites que vous êtes d'accord pour faire l'aventure avec nous et rejoindre, on va dire, l'ambition Smart Clip et le faire ensemble. Donc, c'était un moment assez pivot dans ce premier moment d'entrepreneuriat.
Toi, tu le vis comment là, quand tu as un mec qui a une forme de notoriété, d'autorité, qui est crédible, qui est plus gros que vous à ce moment-là et qui vous dit, en gros, soit je vous détruis, soit tu viens avec moi. Tu le vis comment, toi ?
Tu te poses plein de questions. Tu ne peux pas te poser plein de questions du genre, mais est-ce qu'il va vraiment nous détruire ? Est-ce qu'on n'est pas crédible ou est-ce qu'au contraire, on est très crédible parce qu'il vient nous voir ? On se pose plein de questions.
Mais tu réponds quoi à un mec qui te dit ça, d'ailleurs ?
Tu dis, oui, on se contacte dans deux jours. Et puis, on va réfléchir. C'est ça, l'idée. C'est que tu ne peux pas répondre en instantané. Je pense que c'est violent quand tu penses à la situation. C'est une situation violente, hein, quand même. Et c'est du business, quoi. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore ces situations-là. Non pas que j'aime la violence, mais j'aime ces situations où tu dois prendre des décisions importantes et tu te retrouves sur un moment un peu pivot de ton aventure entrepreneuriale. C'est est-ce qu'on va avec lui ou est-ce qu'on y va seul ?
Et donc, ça a été quoi le thought process ?
Déjà, c'est sûr que c'était une décision pas facile à évaluer parce que tu dois déterminer dans une décision si elle est réversible ou irréversible. Et sincèrement, là, dans ce cas-là, c'est pas évident de se dire si elle est réversible ou irréversible. Tu peux dire qu'elle est irréversible parce que tu vas casser une relation avec quelqu'un en lui disant non, par exemple. Mais pour le coup, c'est pas vrai parce qu'on lui a dit non. Mais quelques années ou mois plus tard, on a été en discussion avec lui pour un éventuel rapprochement. Donc, c'était quelque part réversible. Donc, ce rapprochement ne s'est pas fait plus tard. Mais voilà, c'était une discussion difficile à prendre.
Comment tu l'interprètes ? Tu aurais pu aussi le voir comme un... Enfin, ça peut toucher l'ego, en fait, quelqu'un qui te dit « je vais te détruire ». Tu vois, ça peut créer ce truc de « mais comment tu me parles ?»
Ouais, mais c'est direct. Je pense qu'en France, on a peut-être moins l'habitude de ces joutes verbales. C'est pas forcément négatif, en fait. Ou peut-être mieux que quelqu'un te dise « bah ouais, je vais te détruire » et qu'au moins tu sais à quoi t'attendre. Plutôt que tu saches pas trop et on fait semblant et on est copains, on se fait des tapes dans le dos et on sait pas trop quelle est la situation la plus souhaitable en fait. C'est pas évident à se dire. Moi, j'ai trouvé que c'était assez amusant quelque part. Alors peut-être que je le dis avec le recul, mais d'être dans cette situation, on dit « bah oui, soit il veut nous détruire, soit on y va ». Et puis c'est ça le business en fait. Le business, c'est pas pour les bisounours. Hein. C'est un monde assez dur où il y a des gagnants, des perdants... Et cette décision-là, moi j'adore en reparler, c'est amusant que tu prennes cet exemple. Le saut de process, ça a été avec mon associé qui ne savait pas lui non plus. Hein. Il dit « qu'est-ce qu'on fait Gilles ?» Et au bout de 2 jours, on n'avait pas décidé, on n'avait même pas parlé avec mon associé. Il dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « écoute, moi je pense qu'on a toutes les armes pour y aller. » Donc pour y aller, c'est-à-dire pour aller au conflit, au combat.
Et dans ta tête, aller au conflit, ça peut vouloir dire les détruire ?
Ça peut vouloir dire les détruire, bien sûr. Bon, après, dans un marché... en forte croissance.
Il y a de la place pour plusieurs acteurs.
Exactement. Donc, la destruction, bon, c'était plus une vue de l'esprit qu'autre chose.
Bien sûr.
Mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que c'était très applicable.
Mais d'ailleurs, ça, c'est une question que je trouve complexe parce que j'entends un petit peu tous les sons de cloche et je ne sais pas en plus à chaque fois quel est le niveau de sincérité là-dedans parce qu'en France, on a du mal avec la notion de guerre. C'est quoi, toi, ta vision de cette notion de concurrence, en fait, dans le sens... Parce que t'as, en fait, voilà, t'as deux côtés du spectre. T'as ceux qui disent « non, mais la concurrence n'existe pas, il y a de la place pour tout le monde ». Et à l'autre côté du spectre, « winner take it all », et tu vas avoir un gagnant que des perdants. C'est quoi, toi, ta vision là-dedans, en fait ?
Il y a deux thèmes dans ce que tu évoques. Alors, le premier thème, je vais t'en parler, c'est la concurrence, effectivement. Pour moi, dans des environnements start-up où tu commences à ton business, tu es en train de définir ce que tu vas vraiment proposer comme proposition de valeur à tes clients, à quels clients, il n'y a pas vraiment de concurrence qui tienne. C'est-à-dire, à la fois, tout le monde est concurrent et personne n'est concurrent. Donc, j'ai plutôt tendance à me dire que personne n'est concurrent parce que tant que tu n'as pas une situation où tu as déjà des clients, un business installé qui grossit très vite, tu n'as pas vraiment de concurrence. Le deuxième thème que tu évoques, c'est la notion de conflit en France. Moi, j'ai mis plusieurs années dans ma carrière professionnelle à comprendre que le conflit, c'était quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est quelque chose que je dis régulièrement à mes équipes. C'est Ray Dalio qui disait que le thoughtful disagreement, c'est une valeur très importante dans une équipe. Et je pense effectivement que c'est très, très important. C'est une situation d'inconfort où on se pose vraiment les bonnes questions, en fait. C'est oui, est-ce qu'on est concurrent, pas concurrent pour l'histoire de Smart Clip ? C'est est-ce que je dis que je ne suis pas d'accord avec mon boss ou avec mon collègue ou je ne le dis pas ? En fait, il faut le dire tout le temps. Je pense que c'est très bon d'argumenter, de contre-argumenter et puis de se développer, de se forger une opinion commune sur où on va comment. Et pour reboucler la boucle avec cet exemple Smart Clip, bah, ça nous a permis qu'on associe de se dire dans quelle disposition on était par rapport à la concurrence, au business qu'on allait monter et à la volonté, à l'énergie qu'on souhaitait y mettre.
Ouais, c'est clair que c'est un super test pour mesurer ta motivation.
Ah oui. C'est au bout d'un moment, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Quel est l'objectif ? Si t'as peur d'aller au combat, c'est difficile d'être dans le business, difficile d'être dans le sport de haut niveau. Enfin, c'est quelque part la fondation de beaucoup de choses.
Bon, Ray Dalio, moi, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. J'adore cette idée. Entoure-toi de gens brillants qui sont pas d'accord avec toi. Dans la culture que vous avez créée chez Sticky Ads, est-ce que c'est quelque chose que t'as poussé que y ait... Chez Netflix, m'inspire beaucoup là-dessus, ce côté, je sais plus comment ils appellent ça, candid feedback. Ils se donnent du feedback agréable, désagréable, très souvent et à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire le N-3 qui peut faire un retour à Reed Hastings. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel t'as mis de la valeur pour créer cette culture du feedback positif, négatif, entre guillemets ?
Oui, en fait, cette culture du feedback où on est transparent sur ce qu'on pense est fondamentale, moi, dans toutes les équipes que j'ai pu mener. Ouais. J'ai besoin de ce feedback. Il n'y a rien de plus difficile de donner du feedback constructif, que ce soit sur ton travail, sur ton business, sur de l'art, enfin, si tu peins ou si tu écris, d'avoir du business, tu vas avoir énormément de gens qui vont te faire un feedback, on va dire, facile, qui va dire « oui, c'est pas mal ». En fait, c'est pas mal, ça veut rien dire. Ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire « c'est pas mal, c'est pas très bien, mais je vais pas te le dire parce que je suis pas sûr que tu le prennes bien ». et tu es mon ami, j'ai pas envie de te blesser. Ou alors ça peut être, c'est vraiment exceptionnel, mais j'ai pas envie que tu t'enflammes, donc je te dis que c'est pas mal. Donc tu peux pas faire grand-chose d'un feedback neutre en fait. Et donc c'est là que le feedback transparent est un peu corrosif. Non, on est nul là-dedans, voilà pourquoi, voilà les éléments quantitatifs pour lesquels je pense qu'on doit s'améliorer sur tel axe, et voilà les solutions que je propose. On en discute sur le constat et sur les solutions, et je trouve que c'est ça qui fait progresser en fait une organisation. Je pense qu'on a toujours besoin de progresser, quel que soit son âge, quelle que soit sa maturité dans le business, sa maturité d'entrepreneur ou de professionnel, c'est quelque chose qui te fait vraiment faire un pas en avant. On a besoin de ces feedbacks corrosifs, quoi.
Ce que je trouve complexe, là, par exemple, pour moi, dans mon organisation, c'est que moi, je peux faire des feedbacks en tant que fondateur de la boîte, CEO de la boîte. Comment, selon toi, créer une culture où les personnes de l'équipe, entre elles, vont se faire du feedback et en plus aussi à moi et oser le faire?
C'est effectivement le rôle du manager ou du dirigeant. Moi, j'ai eu une situation dans l'équipe cette semaine où une personne qui me reporte directement chez Klein qui me dit « Voilà, je pense que sur tel niveau, on devrait prendre une formation pour devenir meilleur sur l'analyse quantitative, par exemple, de nos performances dans l'app mobile. » Je dis « Oui, pourquoi ?» Pour telle et telle raison, il dit « Est-ce que tu en as parlé à notre directeur technique ?» Il dit « Ah ben non. » Je dis « Ben, vas-y. » Si tu veux, je pense que c'est à toi, à partir d'un moment, de savoir inviter tes collaborateurs à se parler aussi entre eux. Tu te rends compte encore plus dans le monde d'aujourd'hui où on a vécu de manière plus ou moins forcée des situations de travail à distance, à inviter au dialogue permanent. C'est ce qui est le plus dur et plus important, je pense, pour créer de la cohésion. C'est inviter cette communication permanente, pas simplement de haut en bas, mais aussi en horizontal dans ton équipe.
Une question qui m'intéresse, je trouve que le recrutement, c'est un sujet qui est, je trouve, hyper complexe. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui, en fait, mettent très peu de valeur sur ça. Dans ton bouquin, tu dis qu'à un moment donné, il faut trouver un CTO. Dénicher la perle rare peut s'avérer long et difficile. Comment trouver un bon CTO? Et en sachant que je le vois autour de moi, pour ceux qui n'ont pas une expérience tech, tu peux vite avoir un développeur qui est très moyen. Mais parce que c'est un langage que tu comprends pas, il te dit oui, mais je vais faire ça, 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 et tu te dis ah oui, il est expert. Et c'est le problème aussi de plein d'entrepreneurs qui bossent avec des agences, qui leur vendent du rêve, et ils dépensent 50 000 euros, et il y a une app toute pourrie qui arrive à la fin, ou plus, je dis 50 000 euros, ça peut être beaucoup plus. Comment vous y êtes pris pour trouver votre CTO, et quels conseils t'aurais en fait pour le choisir?
Alors, avant de répondre à ta question, un petit préambule, ouais. Le recrutement, je pense que ça fait partie des trois métiers fondamentaux de l'entrepreneur. Il y a développer une vision et la communiquer, il y a staffer, donc recruter avec les bonnes personnes, et il y a financer ton projet et cette équipe. Si je reviens sur le recrutement, effectivement, c'est sans doute la pierre angulaire où tu peux avoir énormément d'impact, parce que c'est ce qui va faire qu'on fait les choses, en fait. Hein. C'est les équipes qui font. Pour revenir au CTO, effectivement, moi, je n'ai pas cette culture ingénieur. Par contre, mon parcours fait que pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans une industrie où j'ai été confronté à énormément de situations avec des personnes qui étaient ingénieurs et qui étaient très pointues techniquement et technologiquement. J'ai été confronté, j'ai vu ce que c'était que des développeurs dans la Silicon Valley, dans ma vie dans les télécoms, ma vie d'avant entrepreneur. J'ai vu ce que c'était qu'un bon développeur, qu'un mauvais développeur, qu'un bon manager d'équipe de développement, qu'un mauvais. Il y a des notions qualitatives et des notions quantitatives. Qualitatif, moi personnellement, j'adore ces développeurs qui sont capables de vulgariser à outrance la complexité du travail qu'ils réalisent en prenant des analogies, en prenant tout un tas d'exemples qu'ils vont savoir expliquer même à ma maman, s'il faudrait, ce qu'ils sont en train de faire.
Et ça, pour toi, c'est un bon indicateur?
Ouais, c'est un très bon indicateur. Ça dénote d'une maîtrise technique. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui connaît à la fois les couches hautes et basses du travail de développement, et il va être capable de te faire une adaptation du discours et du langage qu'il utilise avec toi pour t'expliquer des choses très compliquées en langage, en termes très simples. Et après, quantitatif, c'est les données qui te permettent d'apprécier le parcours du profil CTO que tu as en face de toi. Un CTO qui a déjà mené avec succès une aventure où il a dû construire une équipe d'ingénieurs, délivrer des produits mobiles fixes, langage maîtrisé, qu'on puisse mesurer quelque part le succès que ces produits, soit par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il y a eu, soit par rapport au succès sur le marché de personnes qui ont utilisé le produit. Ça dit beaucoup de choses. Moi, je suis aussi investisseur en startup et je demande systématiquement, vu que c'est des boîtes tech, à avoir une démo du produit. C'est un élément très important parce que j'ai besoin de me sentir dans cette situation d'utilisateur où je vois le produit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que je comprends, est-ce que ça me paraît technique, pas technique. Et je suis tout de suite capable d'apprécier, au moins en tant qu'utilisateur et en tant que, on va dire, avec un œil produit, si le produit est de qualité et si donc l'équipe qui a réalisé ce produit est de qualité.
J'adore hein, déjà ce que tu as donné comme cette idée de la capacité à présenter de manière très simple, dans un langage facilement compréhensible, quelque chose de complexe. Et de l'autre côté, quelle est la réelle expérience du CTO ? Tu peux me raconter, vu que c'est encore plus récent, comment tu t'y es pris là pour trouver ? Est-ce que tu as rencontré plusieurs personnes ? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des choix à faire entre deux ou trois personnes ? Voilà, ça m'intéresse que tu me donnes plus de détails sur le choix du CTO. Parce que je pense que c'est un sujet, aujourd'hui, même dans des industries non tech, je pense que tu as de plus en plus forcément un CTO pour utiliser toutes les startups qui existent, les API entre elles, créer une infrastructure qui soit la bonne. Donc ouais, je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur qu'on creuse ça.
Je pense qu'il faut recruter un CTO et comment j'ai procédé. Il faut avoir une personne qui maîtrise les aspects techniques, les langages, les nouveaux langages. Comment on fait, par exemple, une app mobile aujourd'hui, sur quel langage c'est développé ?
Bill Gates, il dit que, je ne sais plus exactement le nombre, et encore une fois, c'est certainement métaphorique, mais il dit que, contrairement à plein d'autres métiers, la différence entre un excellent développeur et un bon développeur, le ratio de performance, il est extrême. Sous-entendu, un excellent développeur, il va produire, je me demande s'il ne prend pas 1000 comme ratio ou 100, en tout cas, c'est quelque chose d'immense. Il y a cette analogie avec un excellent chauffeur de camion, il va pouvoir produire peut-être 30% de plus de performance, là où un excellent développeur, c'est peut-être le travail de 10 développeurs. Qui va être capable de te fournir.
Moi, je l'ai vécu, ça. Chez Sticky Ads, on avait une équipe d'une trente-quarantaine de personnes basées à Montpellier. La production de code, de soft, qui est réalisée en quantité et en qualité, je pense qu'elle était équivalente à plusieurs centaines d'ingénieurs que tu pouvais prendre dans une autre équipe. On l'a vu quand on a vendu la société, qu'en fait, ce qu'on produisait, c'était d'une qualité, d'une quantité assez incroyable et qu'on n'était que 30-40, quoi. Et donc, quelques dizaines d'ingénieurs et de développeurs valaient largement plusieurs centaines d'ingénieurs qu'on pouvait retrouver dans d'autres sociétés.
C'est quoi ton secret pour arriver à faire ça ?
En fait, il y a aussi une histoire, je revenais sur le point de communication et de management d'une équipe technique. C'est aussi ce qui fait le secret d'avoir un facteur X, puisque là, tu es sur des multiples de différences d'une équipe peu performante à très performante. Et je pense que la compétence alliée à une communication et une organisation parfaite de ton équipe de développement fait que t'es pas à 30% de différence, mais t'es à plusieurs X de différence entre des bons et des moins bons.
T'as donné un premier super input de comment les choisir. J'aimerais qu'on creuse, tu vois, j'imagine demain, je me retrouve à un entretien d'embauche et j'ai des développeurs face à moi.
Faut les faire tester, en fait.
Tu parles d'un test technique ?
Ouais, il y a un test technique. On a toujours fait des tests techniques dans nos recrutements. C'est pas le seul critère de décision, puisque j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'humains et le fait de pouvoir travailler en équipe, mais ça va être un critère important dans la possibilité d'évaluer quelqu'un, donc sa compétence, on va dire, de base, qui est la technique, et de la mettre au service d'un collectif. Donc, toujours le test technique. Le test quanti ou technique, dans tout recrutement, pas seulement technique, pour moi, c'est quelque chose d'impératif, parce que ça va te donner d'autres éclairages sur des compétences maîtrisées par la personne qui vont éclairer ton choix de prendre la personne ou pas dans ton équipe.
Et quand tu dis test technique, c'est en utilisant, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs services qui créent des tests techniques, ou c'est un test technique que vous avez créé vous-même ?
Ouais, c'est bien d'avoir des situations ou des tests techniques qu'on crée nous-mêmes, mais sinon, utiliser des tests du marché, c'est aussi très bien. Il faut avoir des indicatifs, des indicateurs et des marqueurs quantitatifs. Parce que être bon en recrutement, je pense qu'il faut savoir faire abstraction de l'émotionnel que tu as dans un recrutement.
C'est super dur, ça.
C'est dur. Bon, c'est système A et système B que tu peux avoir dans des décisions et qui sont très bien décrites dans tous les bouquins d'économie comportementale. Mais dans le recrutement, je crois que c'est Daniel Kahneman qui disait dans son livre Thinking Fast and Slow que le bon recrutement, c'est du quanti et du quali. Et moi, j'ai pas attendu lire ce bouquin pour le faire. On l'a toujours fait et ça s'est révélé être, je pense, la meilleure façon d'optimiser tes recrutements. Après, tu fais toujours des erreurs de recrutement, mais au moins, je pense que t'en fais moins.
Et d'ailleurs, dans le bouquin, tu parles aussi qu'à un moment donné, vous devez choisir, trouver un directeur commercial. Donc là, c'est encore très différent. Ça m'intéresse de connaître un peu sur le sujet du recrutement, là. Ça a été quoi ton process? Et même comment, du coup, vous avez choisi pour Sticky Ads le directeur?
Alors, c'était un recrutement très difficile. Quand tu regardes a posteriori, c'est facile de mettre les choses d'une façon ou d'une autre, mais faut pas oublier que Hervé, mon associé, et moi, on avait un passé de directeurs commerciaux en B2B. Donc, je pense que c'est très difficile de recruter des personnes qui étaient peut-être des profils comme toi il y a quelques années. Et donc, ça met une exigence et une attente plus élevée. Donc, on a mis très longtemps à trouver notre directeur commercial.
C'est quoi déjà, selon toi, un super directeur commercial ?
Un super directeur commercial, c'est une combinaison de choses. C'est l'aspect exécution du commercial, signer des contrats et pérenniser ces contrats et le faire en équipe, puisque c'est directeur commercial. Donc, tu n'es pas un loup solitaire. Il faut que tu arrives à créer une dynamique d'équipe où tout le monde est bon dans l'équipe. Il y a l'aspect delivery, hein, livraison, je vends, je dépasse mes objectifs, je sais me fixer des objectifs, je sais donner un statut sur où je me trouve par rapport à ces objectifs. À la fois seul, moi, directeur commercial, et à la fois en équipe.
En tant que directeur commercial, il signait lui-même des contrats.
Ben oui, de toute façon, quand tu es directeur commercial, c'est très bien de garder le contact avec ses clients, parce que tu te rends compte des objections qu'on peut te soumettre, tu te rends compte comment il faut y répondre, puis il y a forcément des deals qui ont plus de valeur que d'autres, qui sont plus stratégiques. Et là, je pense que le client va avoir une attente de voir le directeur commercial et peut-être un peu moins le commercial. C'est normal.
Là, je recherche un directeur commercial et je veux éviter le côté, et je pense que c'est une erreur de pas mal d'entrepreneurs, le côté mouton à cinq pattes. Ça m'intéresse d'avoir ta lecture parce que tu vois, dans les besoins qu'on va avoir au niveau sales, il y a un enjeu, ce que tu as décrit, de construire l'équipe, l'idée, mettre en place, gamifier, enfin, créer une culture de performance au sein de l'équipe. Ça, c'est un besoin. Il y a un besoin de choisir, de paramétrer, d'implémenter un CRM, donc par exemple, nous, on est plus parti pour aller vers HubSpot,
ouais.
Vu qu'on a un côté très consumer. Et là, je me dis, j'ai besoin de quelqu'un qui est quand même bien câblé système et qui va pouvoir bosser avec l'équipe tech pour automatiser un maximum de choses. Surtout que moi, j'aime bien cette culture de l'automatisation. Et puis, je me disais, tiens, il y a les clients qu'on a, mais je suis sûr que quelqu'un qui a une forte dimension commerciale peut identifier en discutant avec les clients des nouvelles opportunités de croissance qu'on ne voit pas forcément. Il y avait un côté un peu biz dev. J'arrivais pas à savoir, est-ce que je suis en train de chercher en fait quelqu'un qui est... C'est pas une personne, c'est plusieurs. C'est quoi ta lecture? En sachant que voilà, que le côté souvent sales de base, c'est pas un côté très système que je décrivais. Maintenant, c'est un poste de directeur, donc ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus.
Moi, je pense qu'il faut hiérarchiser tes besoins. Moi, dans ta situation, peut-être que je me demanderais, est-ce que c'est pas plus important déjà de réaliser le métier de base qui est de vendre et d'être performant dans la vente? Effectivement... Aujourd'hui, c'est impossible d'être bon vendeur et de ne pas savoir maîtriser au moins un outil de sales, que ce soit HubSpot ou Salesforce ou autre chose. Mais la base, c'est déjà de réaliser d'être bon vendeur. Quoi. Ça, c'est avant tout le compromis où il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de compromis. C'est le fondamental où j'aurai le moins de compromis. Sur la maîtrise des outils de gestion des ventes, le CRM, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est lettré, literate, on va dire, par rapport à ces outils de CRM qui en a utilisé, qui sait les utiliser, mais j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui soit excellentissime. Bon, il s'est trouvé que chez Sticky Ads, on a trouvé la personne qui savait faire les deux, mais si Jean, à qui je pense, là, ne savait pas faire cette gestion commerciale, c'était un peu plus gênant, mais c'était pas forcément grave.
Et donc vous auriez fait comment du coup? Ça aurait donné quel modèle?
Ça aurait été plus difficile parce que c'est de toute façon quelque chose que tu dois faire en tant que société et d'équipe. Donc si ton directeur commercial ne le fait pas, il faut que la personne à qui il reporte le fasse. Ou que tu aies quelqu'un dans l'équipe qui soit chargé, dans son équipe, de mettre les choses dans l'ordre et de ranger la chambre, comme on dit. Et donc de savoir donner un forecast, de savoir donner un état des ventes et de le mettre sous forme organisée et intelligible par n'importe qui. Parce que de toute manière, quand tu as des actionnaires, il va falloir communiquer ces avancements-là. Donc, c'est important. Après, sur l'aspect biz dev, je pense que c'est encore, tu l'as dit dans le bon ordre, ça vient encore après parce que ce sont des conversations, en fait, qui font que tu vas comprendre le besoin sous-jacent, pas forcément exprimé clairement par ton client où tu pourras amener de la valeur. Ou alors, ça va être des moments, on va dire, pivots qui font que tu comprends qu'il y a autre chose à faire. Chez Stickas, pour être très concret, prendre un exemple, on avait commencé par un métier, on va dire, avec des fonctionnalités où on leur permettait de vendre leur propre inventaire publicitaire, donc aux chaînes télé, etc., avec la technologie qu'on leur apportait. Et au bout d'un moment, il y a pas mal de nos clients qui nous ont dit « on est vraiment très contents de ce qu'on fait ensemble ». Et on leur a dit « qu'est-ce qu'on peut faire en plus ?». Mais ce n'est pas forcément le directeur commercial qui leur a posé la question, c'est nous les dirigeants et le directeur commercial. Et c'est là qu'ils nous ont suggéré 12 idées de fonctionnalités de business sur lesquelles on pouvait faire encore plus.
Et c'est plus toi qui l'as fait ça ?
C'est plus un travail d'équipe, on va dire. Moi et l'équipe, c'est une prise de conscience de « ok, comment on va plus loin et comment on peut le faire ?» Ça vient encore après et ce n'est pas des moments qui arrivent finalement si fréquemment que ça. Il faut se les poser régulièrement ces questions, mais pour revenir au fondamental, au quotidien, le commercial, le directeur commercial doit se lever avec une notion de performance et d'enquiller du deal en fait.
Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini, où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit: j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a quatre choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser, et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques. On peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur.
Une question là que je me pose, où tu peux avoir des éléments de réponse, je pense que ça peut aider pas mal de personnes, c'est que moi j'ai un parcours d'ingénieur en informatique, donc c'est très facile de comprendre la tech. Là on est dans une phase où on a besoin d'implémenter pas mal de nouveaux outils, payroll, HR et tout ça. Une des complexités que je vois et que je vis, ça m'intéresse d'avoir ta lecture, c'est que on va avoir d'un côté des personnes, ça peut être le comptable, qui a une compréhension des besoins comptables, mais qui n'imagine pas du tout ce qu'on peut automatiser. Surtout que nous, on a beaucoup de transactions. Forcément, vu qu'on n'est pas en B2B, arriver à automatiser des choses, ça gagne beaucoup de temps et ça évite plein d'erreurs. La personne qui est spécialiste métier n'imagine pas ce qui est automatisable. De l'autre côté, des personnes au niveau tech qui ne comprennent pas l'univers, par exemple, RH, bah, tout à l'heure on parlait de ça peut être CRM. Dans une organisation, comment on s'y prend pour arriver justement, je pense que c'est le plus gros défi pour moi, c'est d'avoir une organisation qui vit de plus en plus sans moi. C'est facile parce que vu que moi je vais comprendre la compta, j'ai la vision de la boîte et j'ai la tech, je peux, ça peut se passer tout dans ma tête. Mais ce que j'aimerais arriver à comprendre, c'est comment tu fais ça mais avec des personnes qui bossent ensemble. Et quelles sont les bonnes personnes ? Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question, mais ça m'intéresse d'avoir ta lecture là-dessus.
Alors, je vais te dire, tel que j'ai compris de ta question, on parle un peu du scale et d'automatisation de tâches. Moi, je pense qu'il y a un moment pour se poser la question d'automatisation et vu la manière dont tu décris ça, ça a l'air d'être très positif. Quand tu te poses la question de « Ah, mais notre process est trop fastidieux, il n'est pas automatisé et on commence à avoir beaucoup de clients et j'aimerais pouvoir en traiter plus ou traiter ce que j'ai actuellement mieux », ça veut dire que tu es arrivé à un moment où, on va dire, la manière empirique de faire les choses sans automatisation arrivait à sa limite. Donc, c'est toi qui te rends compte de cette situation. Effectivement, en général, ce n'est pas forcément la personne qui est en charge de l'activité elle-même qui va venir et proposer une amélioration. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est bien d'ajouter dans l'équation une troisième personne qui va être en charge de mettre en place un système et des outils qui font que tu automatises. Ça va être une équipe à 3 en général. Nous, si je fais le parallèle avec Sticky Ads, qui était certes en B2B, mais qui était un métier où il y avait quand même pas mal de tech et d'automatisation à effectuer, c'est là où on s'est rendu compte qu'à un moment, il fallait que on ait un recrutement clé qui soit en charge des opérations et qui définisse des procédures, les automatise et prenne les outils qui permettent de faire beaucoup plus avec moins, en fait.
Et c'est quel titre de poste, par exemple ?
C'était un poste de responsable opération, un poste où tu as une personne qui est en charge d'une équipe de production avec des outils à la fois d'analyse, de reporting et des outils d'action pour faire les tâches elles-mêmes, que ce soit pour produire du business, pour délivrer du business ou pour l'analyser et refaire une boucle, on va dire, vertueuse pour constamment analyser ce qu'on fait et voir si c'est fait dans des conditions optimales, que ce soit la gestion de ton canal de vente ou la gestion de la livraison de la solution ou du produit que tu vas rendre à ton client au final.
Et dans ton cas, c'est quelqu'un qui bossait du coup sur plusieurs départements, du coup, à la fois la partie produit, il intervenait à plusieurs endroits de l'entreprise.
C'est quelqu'un qui est central, ouais, qui est assez pivot dans le dispositif parce qu'effectivement, il faut parler aux équipes de dev, il faut parler aux équipes de vente, il faut parler aux équipes qui livrent le produit. Donc, c'est vraiment assez central. Ouais.
Et donc, ça veut dire que tu cherches quelqu'un qui a une appétence tech qui est plutôt forte?
Oui, quelqu'un qui aime la tech, qui est très organisé, qui sait mettre de l'ordre dans les choses, en fait. C'est vraiment l'analogie de ranger sa chambre. Au bout d'un moment, c'est bien de croître, d'aller très vite, mais à un moment, il faut savoir ranger et organiser les choses pour que ça se passe encore mieux et que ça aille encore plus vite. Mais ce qui est intéressant sur le scale, pour revenir sur la notion plus générale, c'est que en général, le scale, c'est quelque chose qui t'arrive à des moments où tu t'y attends peut-être le moins, quoi. Et ces moments-là, moi, j'ai pu les vivre, notamment chez Sticky Ads, c'est... T'arrives à un moment où tu as mis en place une activité, que tu as commencé à l'automatiser et les choses se font tout seul. Mais c'est plus quelque chose qui vient te surprendre, je pense.
Quand tu dis les choses se font tout seul, c'est quoi que tu veux dire?
C'est le jour où tu te rends compte que ça scale, que ton business scale, vient toujours, je pense, un peu comme une surprise. Donc ça veut pas dire que ça vient complètement avec de la chance, mais tu as mis en place à la fois une activité business et des outils et une équipe et une organisation qui fait qu'un jour, oui, tu te lèves tous les matins et tu vois que tu fais de plus en plus de business.
Quand tu dis scale, du coup, c'est dans le sens traction, c'est-à-dire qu'au niveau vente.
Oui, complètement.
Et ça induit le fait de mettre de la valeur sur le scale interne, on va dire.
Complètement, oui. Enfin, ce moment-là, il est assez fabuleux de se rendre compte qu'on a de la traction, comme tu le dis, et après avoir mis en place un début d'outils et d'outillage et d'organisation et de process qui font que... Aujourd'hui, tu te lèves et plus qu'hier et demain encore plus qu'aujourd'hui, tu fais de plus en plus de business.
Et la personne dont tu parles, la responsable des opérations, tu dissocierais ça d'un poste de COO ou c'est ce que tu es en train de décrire?
Bon, c'est un peu un poste de CEO, ouais. C'est complètement même un poste de CEO. C'est quelqu'un qui maîtrise complètement tout le business, toutes les opérations à effectuer et qui va savoir les processiser.
C'est quoi ton framework de réflexion entre dire, tiens, je prends un responsable des opérations, peut-être un peu plus junior, comme tu viens de le dire, hyper structuré, qui va aimer ranger, qui réfléchit en système, qui aime que les choses soient fluides, qui aime discuter avec plein de types de départements, ou je prends quelqu'un de plutôt senior qui va devenir directeur des opérations, donc encore au-dessus.
En fait, le senior ou pas senior, il y a la notion de management. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre, que ce soit en école de commerce ou ailleurs. On l'apprend sur le terrain, le management. C'est vrai que ça fait lieu commun de le dire et ça fait peut-être un peu vieux schnock, mais c'est la cruelle réalité des choses. Par contre, les profils de junior vont avoir un avantage intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui ne nécessitent pas de maîtriser le code ou complètement les professions, qui vont te permettre d'automatiser des systèmes et des process. Et ces outils, en général, sont mieux connus des personnes qui sont plus jeunes, qui ont toujours vécu dans les outils et qui connaissent parfaitement toutes les panoplies d'outils no-code qu'on va trouver sur le marché.
Et en tout cas, les apprendre vite, sinon.
Ils les apprennent vite, comme Zapier ou Airtable, par exemple. L'idéal, c'est sans doute la personne qui a un peu d'expérience, qui a déjà démontré qu'elle savait recruter, construire une équipe, la faire travailler correctement, savoir communiquer avec d'autres départements et soit rapide pour apprendre de nouveaux outils. Donc ça, c'est indépendant de l'âge, finalement.
Et quand tu dis responsable des opérations, tu penses que la personne, elle est au niveau hiérarchique, elle est manager, finance manager, HR manager, ou c'est plus un trio au même niveau?
Non, c'est un trio au même niveau, je pense que...
Donc, il n'y a pas forcément besoin, imaginons demain, on trouve un responsable des opérations junior qu'on veut très organisé, qui a envie de contribuer à la mission, mais qui n'est pas forcément expérimenté en management des humains, ce n'est pas forcément un problème, du coup, dans le contexte responsable des opérations.
Ce n'est pas un problème. Il va falloir qu'il y ait une personne, par contre, dans l'organisation qui l'aide à devenir forte sur l'aspect management humain si cette personne veut évoluer à cette position-là.
Si elle veut prendre le poste de CEO plus tard.
Exactement.
Raconte-moi des moments... qui t'a le plus ému, plus touché dans ton aventure entrepreneuriale?
Mais en fait, c'est difficile de se retourner, de parler de ça. Parce que moi, je vois l'entrepreneuriat comme une aventure continue et j'aime bien regarder devant, en fait. Sur Sticky Ads, forcément, il y a eu deux moments assez émouvants. Il y a eu un moment où mon associé a eu un accident de scooter. Après deux ans, à peu près deux ans de Sticky Ads, Hervé donc, a eu un accident de scooter, pas très grave, mais qui était un signal. Et quelques mois après, il a eu un autre accident un peu plus grave, là, pour le coup.
Et tu l'apprends comment? Raconte-nous un peu.
Je l'apprends, je suis dans le métro, je vais au travail et je reçois un coup de fil de mon associé assez tôt le matin. Donc, c'est déjà assez bizarre, recevoir des coups de fil tôt pour me dire, ouais, je serai pas au bureau aujourd'hui. Voilà ce qui m'est arrivé hier soir. Et donc, je vais avoir besoin de toi. J'ai tel rendez-vous qui arrive, tel rendez-vous. Et je sais pas trop quand est-ce que je vais aller mieux, quoi.
Et là, à ce moment-là, il est chez lui, il est à l'hôpital,
Il est chez lui, il a eu les pompiers qui sont venus au petit matin chez lui, parce qu'il avait réussi à rentrer chez lui, ce qui n'était pas forcément une bonne idée.
Pourquoi ce n'était pas une bonne idée?
Parce que quand on a un accident sur la route, hein, en l'occurrence en scooter, bah, c'est bien de rester sur les lieux et pas essayer de trop bouger, parce qu'on peut avoir des séquelles graves par la suite. On se rend compte, en fait, de la fragilité d'un business et qu'on est en train de construire à deux, en fait.
Toi, tu le vis comment, là, quand il t'appelle et...
Bah, c'est assez dur comme moment. Hein. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'Hervé avait la position de CEO, hein, moi, j'étais second dans la société. On se dit, bah, maintenant, c'est mon moment. Il faut que je step up et il faut le faire. C'est un peu comme si tu joues au basket, que tu es sur le banc et il y a un blessé sur le terrain, c'est à toi maintenant. Donc, tu sais que maintenant, on va compter sur toi et c'est à toi de montrer la voie et d'exécuter ce qui a été décidé ensemble.
À un moment donné, il envisage d'arrêter. Enfin,
l'épisode, comment ça s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu plusieurs mois de convalescence difficile.
Donc tu te retrouves tout seul, plus ou moins?
Ouais, plus ou moins tout seul. Ce qui est pas évident, enfin tout seul, j'aime pas dire que j'étais tout seul parce que Hervé avait besoin d'être mis au courant. En même temps, j'avais pas envie de lui donner trop de charge mentale parce que j'avais plutôt besoin qu'il revienne vite. Donc on est toujours partagé entre mettre au courant ou ménager son associé. Et ça crée une situation, on va dire, complexe qui fait qu'au bout de quelques mois, on a une discussion très importante où il m'a dit « je pense que je vais arrêter ».
Donc arrêter, ça voulait dire complètement sortir de l'aventure.
Sortir de l'aventure, arrêter.
Et ça, quand il te le dit, tu vis quoi?
J'ai vécu une situation où je ne me suis pas posé de questions. Quoi. Je lui ai dit « écoute, c'est impossible, tu es venu me chercher pour faire partie de cette aventure ». On a monté tous les deux au début ensemble et on a vécu des moments comme celui que tu as décrit là avec Smart Clip. On va au bout, quoi. Donc, on va aller ensemble au bout. Donc, interdiction d'arrêter. Là où on en est, c'est un peu plus difficile. Par contre, on va remonter la pente ensemble et on va y arriver.
Il répond quoi à ça?
Bah, il a répondu oui, peut-être que c'est la conversation qu'il attendait au final. Mais pour moi, c'était hors de question de continuer seul cette aventure. Ce binôme, il fonctionnait, il fallait y aller.
Donc ça a pris quelle forme? Parce que donc lui, il dit ok, je veux continuer. Mais du coup, il reprend?
Oui, il reprend. Et, bon, sur le moment, je me souviens plus exactement la situation, mais il me semble que chacun rentre chez soi et me dit je vais réfléchir. Mais en fait, oui, il reprend. Ensuite, ça va mieux et il reprend sa place. Et je pense qu'on est allé au sommet de ce qu'on pouvait faire avec cette aventure Stickyads. Ouais.
J'imagine que c'est super complexe pour toi comme décision. Tu as envie qu'il récupère physiquement. Enfin, ça se passe comment du coup? Est-ce que physiquement, il est capable de reprendre avec le même rythme qu'avant? Raconte-moi un peu plus de détails du coup dans ce truc-là.
Ça, en fait, il faudrait lui poser la question à lui, mais c'est vrai que moi, j'avais besoin qu'il revienne le plus vite possible, physiquement au top. Et par contre, ça voulait dire qu'il fallait lui laisser le temps de se refaire, à la fois une santé physique et mentale. Parce que quand on dit qu'on arrête, ça veut dire que mentalement, ça va plus.
Et justement, comment vous avez géré ça pour qu'il ne revienne pas? Parce qu'il aurait pu très bien revenir, mais revenir grillé mentalement, pas bien physiquement, et que 3 mois plus tard, ça pète cette fois pas en scooter, mais dans sa tête, que ça soit un burn-out en fait. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui a aidé à qu'il revienne de la bonne manière?
Beaucoup de dialogue, et puis on a fait coacher en fait le binôme de fondateurs depuis le début de l'aventure. J'ai pas eu de coaching individuel, ni Hervé pour le coup, mais en fait on a été coaché pour que ce binôme il fonctionne.
Par quel genre de personne?
Bah, par une professionnelle, une coach professionnelle. Hein.
Et qui vous coachait à chaque fois les deux en même temps?
Elle nous voyait parfois séparément, mais elle coachait le binôme, tout à fait.
On peut avoir des coachings séparés, mais le sujet, c'était la relation.
Exactement.
Donc, t'amenais pas en coaching, par exemple, j'ai telle décision business à prendre, je sais pas quoi, c'était pas ce genre de coaching?
Non, c'était plutôt comment décider ensemble, comment fonctionner ensemble, comment mieux se connaître et puis comment, pour cette situation, revenir au top avec un binôme soudé et fort. Après, ce qu'on a démontré avec cet événement, c'était sans doute la résilience de notre organisation et notre binôme. Même s'il y avait un problème, là, en l'occurrence physique, sur l'un des associés fondateurs, ça pouvait continuer et on a réussi à ressouder le binôme et à partir encore plus fort après.
Ce coaching, ça a démarré à quel moment de l'aventure?
Assez tôt. Je veux dire à peu près un an après qu'on ait lancé la société.
C'est quoi en fait qui vous fait décider de faire ça? Enfin, raconte-moi un petit peu.
Qui nous fait décider de faire ça? Mon associé, je le connaissais parce qu'on avait travaillé ensemble auparavant, mais dans des situations où on était salarié d'une organisation. Donc, on avait été très proches à faire du business et gérer des équipes ensemble. Par contre, gérer une organisation et une start-up à forte croissance ensemble, ça, on ne l'avait pas fait. On s'est rendu compte qu'on avait tous les deux des personnalités très fortes. Hervé, c'est quelqu'un de très persévérant, puisque cet épisode a démontré qu'il avait une force mentale extrêmement forte. Très, très bon dans la vision et aussi pour rentrer dans les détails d'exécution de qu'est-ce qu'il faut faire à un instant T. On partageait la même sensibilité sur les personnes et l'humain. En fait, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux très très forts, avec des personnalités très fortes, et qu'on avait besoin, pour aligner cette force de personnalité, de se faire coacher pour aller dans le même sens, et que ça tienne en fait sur la durée. Puisque bon, Sticky Ads, même si ça a été une aventure rapide entre la création et la sortie, ça a duré moins de 7 ans, c'est quand même un travail de longue haleine et à haute intensité, donc il faut que le binôme y tienne. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de s'aligner et on s'est mis d'accord pour prendre un coaching de binôme.
C'est un truc que j'adore parce que là, par exemple, j'ai une startup que j'adore, j'accompagne les deux fondateurs, donc je vis ça du côté coach. C'est pas spécialisé sur les aligner entre eux, même si c'est fait partie des fois des sujets. Ça se passait comment, les coachings?
En fait, le coaching, c'est du travail sur soi et du travail sur l'autre. Bien comprendre que le monde n'est pas tel que tu le souhaites, mais il est tel qu'il est, en fait. Et donc, ce coaching te permet de comprendre comment est ton associé.
T'as un coaching qui t'a marqué, on essaie d'avoir un exemple un peu concret.
Moi, ce qui m'a marqué, si je prends un exemple très, très concret, admettons qu'on soit associés tous les deux et qu'on se voit tous les jours à ce bureau ensemble pour travailler ensemble, la coach, Valérie, a été capable de nous amener à cette situation et à nous poser la question de comment ça se passe. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime travailler son focus et le flow dans le travail. Et donc, j'ai besoin de ne pas être interrompu. Et donc, la coach nous a fait prendre conscience de ça. Elle a fait prendre conscience, Hervé aussi, de ce besoin que j'avais. Et que même si on partageait le même bureau à un mètre de distance, on avait besoin de mettre un signe sur la table. Si j'avais ça sur la table, c'est que je suis focus et qu'il ne faut pas me déranger. Ou alors, si on me dérange, c'est « Gilles, est-ce que je peux te prendre une minute? Je vois que tu es occupé. »
Je ne sais pas si tu as lu le bouquin « Indistractable ».
Non, pas encore.
J'ai eu la chance de l'interviewer en plus. Il est très sympa.
Super.
Et justement, il dit que le simple fait qu'on te demande est-ce que je peux te déranger ? En fait, ça va te sortir du flow et tu vas mettre, je ne sais plus combien c'est, 15 minutes derrière à revenir dans l'état mental dans lequel tu étais. Et donc, justement, c'est très drôle parce qu'il propose une idée qui est très similaire à ce que tu viens de décrire, qui est d'utiliser des signes physiques pour alerter ton environnement. Par exemple, sa femme, elle met une couronne, je ne sais plus quoi, de fleurs, qui veut dire à ses enfants, la maman, elle est en mode deep work. Ça m'a fait vraiment écho avec ce bouquin.
Il y a ça, et par exemple, le fait d'avoir un rendez-vous qui ne change jamais entre nous pour discuter, en fait. Ce n'était pas orchestré avant. C'est-à-dire que c'était un peu mouvant, et puis ça pouvait être un jour, un l'autre, à une heure différente. En fait, non, ce n'est pas possible. Vous devez avoir une heure, un jour défini où c'est votre moment où vous échangez. Et il me semble que c'était lundi matin pour bien commencer la semaine, une heure minimum. Et ça pouvait durer 2-3 heures, mais une heure minimum pour s'aligner, être en phase sur le long terme et le court terme, en fait.
Est-ce qu'il y avait une structure à ce meeting ou c'était free?
Il y avait des structures, oui, en général. On a toujours développé la culture de compte-rendu hebdo pour dire ce qu'on avait fait d'important dans la semaine et ce qu'on allait faire d'important dans la semaine qui suivait. Et on se l'appliquait, donc ça permettait de cadrer la discussion. Je le pratique encore, cette méthode-là, de cadrer la discussion sur est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord. C'est écrit, donc il y a une discussion qui est en général très intéressante sur qu'est-ce qu'il y a dans ce compte-rendu, est-ce que c'est vraiment les choses importantes et est-ce qu'elles sont dans l'ordre.
Tu te limites à un nombre de points?
Non, pas forcément. Mais s'il y a trop de points, ça dénote un petit problème de priorité. S'il y a 3 priorités, 5 maximum pour une semaine, c'est déjà beaucoup. Voilà, des choses vraiment très, très concrètes, quoi.
Et c'est des choses plutôt de l'ordre d'actionnable ou de livrable? Par exemple, si tu prends les ventes, est-ce que c'est le nombre d'appels que j'effectue ou est-ce que c'est le nombre de ventes que j'ai gagnées?
En fait, ce qu'on veut, c'est toujours le livrable. Mais par contre, c'est très difficile de mettre un objectif sur le livrable parce qu'il y a plein d'impondérables qui font que tu peux ne pas livrer. Donc, je pense que c'est intéressant de mettre des objectifs quand tu raisonnes à la semaine ou sur du court terme, sur ce qu'on appelle l'input. Combien tu as besoin de faire de rendez-vous pour avoir ton
tracé?
Donc, c'est quand même intéressant de se focusser sur l'input, en fait. Parce que ça veut dire que tu as eu la réflexion, ça évite d'avoir des discours ou des dialogues un peu difficiles, dire « Ah oui, j'ai pas eu l'output ». Mais en fait, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu la réflexion sur combien il fallait avoir d'input pour avoir tel output. Et c'est peut-être cette discussion qu'il faut avoir.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce que vous aviez implémenté, il y a des très beaux bouquins là-dessus. Je suis un grand lecteur. Hein. Donc, il y a les OKR. Tu as un autre bouquin qui s'appelle « 4 Disciplines of Execution » qui donne un autre modèle. Est-ce que vous avez implémenté ce genre de framework en interne pour créer de l'exécution?
Pas vraiment, parce qu'on gérait du très bon compte. Tu vois, on avait plus de croissance des ventes sur un compte consigné qu'une problématique d'empiler les nouveaux comptes et de faire de l'abattage, de la typologie des comptes qu'on adressait. C'était des grands médias, il fallait les signer, donc on a des objectifs là-dessus, mais on n'avait pas besoin d'avoir un abattage avec une production quotidienne de nombre de rendez-vous, etc. etc. On n'avait pas eu besoin de faire ça, en fait. C'était pas forcément important de le faire.
Nous, on fait la transition, je sais pas si tu connais ClickUp. C'est un nouvel Asana, moderne, encore plus moderne, et ils ont poussé l'automatisation. Là, ils sont, en, je sais pas, 2-3 ans, ils sont devenus une licorne. Ils sont très très forts, ils ont une croissance de malade. Et donc se poser la question là pour nous de choix d'outils, on a fait un premier petit benchmark. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'énergie pour l'instant dessus, mais je me disais, tiens, est-ce qu'on met tous les OKR dans ClickUp en mode, ben voilà, en plus c'est assez personnalisable l'outil. Ou est-ce qu'on prend un outil dédié, objectif, que ce soit transparent pour tout le monde et qui puisse inclure des performance reviews, c'est dans ce sens-là.
Oui, complètement, oui.
J'arrive pas à me rendre compte de la plus-value, parce que, en fait, surtout quand on aime les outils digitaux, c'est très tentant de les cumuler et de se retrouver avec des licences à 10$ par employé, ouais, par outil.
Ça a des grands mots des startups d'aujourd'hui, qui se retrouvent avec beaucoup d'outils SaaS, où on sait plus trop ce qu'on paye à la fin. Et pour revenir à ta question, je pense que l'objectif principal, c'est la performance, mais aussi l'alignement, en fait, de ton organisation et ton équipe sur des objectifs. Et donc, l'outil qui permet d'avoir cette transparence sur qu'est-ce qu'on attend de moi et où j'en suis, c'est ce qu'on va viser. Donc, je ne sais pas exactement ce que fait l'outil dont tu parles, mais moi, je n'ai pas besoin de quelque chose de très élaboré. J'ai besoin de quelque chose qui permet de l'écrire, de le rendre transparent, qui permet d'être dédié à ça et de cascader effectivement des objectifs qui peuvent être annuels ou trimestriels, donc quelque chose qu'on peut revoir et mesurer en termes d'avancement au moins tous les mois, quoi. De manière à ce que tu aies constamment cette boucle de feedback, de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je suis en retard, est-ce qu'il faut que je fasse les choses différemment, et d'avoir des discussions qui permettent de se mettre en position de réussir et de livrer.
Et toi, ta vision, c'est comment au niveau top-down, down-top de la fixation d'objectifs?
C'est un mix des deux. Je pense que c'est, comme je l'ai dit, le CEO est en charge de la vision. Donc, la vision, ça veut dire savoir définir un objectif très long terme de où va la société en termes de nombre de clients, de downloads, ce que tu veux, mais aussi de savoir le cascader sur qu'est-ce que ça veut dire pour cette semaine, par exemple. Le lointain et le très court terme. Entre les deux, finalement, c'est un peu moins important, entre guillemets. Donc, quand les deux, le long terme et le court terme, sont très clairs, ça permet d'exécuter. Le CEO sait où ça va et doit savoir où ça doit aller. Donc, il doit être capable de formuler des objectifs. Et je pense que c'est important d'avoir la boucle de retour de la personne qui reçoit cet objectif pour dire « Oui, je comprends l'objectif » ou « Ton objectif me paraît pas réaliste, pas assez ambitieux ou peut-être trop ambitieux. » Et donc, c'est important d'avoir ce dialogue de manière à calibrer en fait, le livrable que tu peux attendre, bien comprendre ton organisation et la difficulté pour réaliser certaines tâches. On a besoin des deux, mais je pense que c'est bien que ça vienne quand même du CEO qui doit absolument savoir où vont les choses, alors que ton équipe, elle doit attendre du CEO d'avoir la vision. Ce n'est pas forcément fair de dire à un collaborateur « fixe-toi tes objectifs et reviens vers moi quand tu sais », parce que ça présuppose qu'il ait complètement compris la mission de la société dans son ensemble, ça présuppose qu'il est complètement au fait de ce qui est en train de changer ou de ne pas changer. C'est mettre trop de pression, je pense, sur un collaborateur de lui dire de fixer seul ses objectifs.
Une autre question qui est complexe, qui est liée à ça et pour laquelle, pareil, il y a du débat. Moi, j'adore les interviews parce que du coup, j'entends des visions du monde très différentes et je suis très content que pour mon audience, ils puissent s'enrichir. Tu sais, c'est un peu comme à la bourse, tu as vraiment des visions très opposées. Par rapport à la rémunération, c'est quoi toi, ce que tu as testé ou peut-être les erreurs que tu as faites, les apprentissages que tu as? Et pour donner un peu encore plus d'input dans ma question, c'est... Est-ce qu'il y a une corrélation entre la REM et l'atteinte des objectifs? Est-ce que c'est plutôt en BSPCE? Est-ce qu'il y a du variable? J'ai entendu tous les modèles là dans mes épisodes.
C'est un sujet très complexe et je pense qu'on a chacun notre avis, notre opinion. Moi, j'ai vu des choses qui fonctionnaient, donc je peux te dire ce qui fonctionnait.
Ouais.
Est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Je pense que c'est en réflexion et il y a plein de mouvements nouveaux qui arrivent sur l'hypertransparence des salaires, par exemple. Il y a du positif, mais je suis pas à l'aise avec ça, en fait. C'est pas parce que pas du tout parce que je pense qu'il faut faille cacher des choses. Comme dans les relations intimes, d'amitié ou dans un couple, toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. C'est peut-être mon côté un peu romantique, mais je trouve ça un peu obscène de rendre complètement transparent les salaires. Moi, je préfère mettre en place les outils qui expliquent comment on fixe des rémunérations pour qu'elles soient... faire juste et équitable. Et ça, ça a été toujours dans les deux aventures entrepreneuriales qu'on a suivies avec Sticky Ads et avec Klang. Moi, je veux toujours être dans une posture où si quelqu'un prend connaissance du salaire d'une autre personne de l'équipe, que je puisse lui expliquer si elle a une question et qu'elle puisse peut-être même elle-même se dire « Oui, je comprends parce que plus d'expérience, parce que telle ou telle raison ». et je veux toujours être à l'aise par rapport à ça. Par rapport à la performance, j'ai été éduqué entre guillemets à l'école américaine puisque j'ai travaillé pour une startup de la Silicon Valley dans mes années télécom. Et en fait, c'était une culture où le variable était grandement lié en fait à ta performance en tant que vendeur. Et j'ai trouvé beaucoup de bienfaits à ça. C'est ce qui a fait que quand tu es un super vendeur, bah, tu arrives à faire un super salaire. Et ajouter à ça, alors aux États-Unis, c'est BSPCE, enfin Stock Option pour tout le monde. Il y a un juste chemin aussi à attribuer les Stock Options pour tout le monde ou pour les personnes qui comprennent vraiment ce que c'est. J'ai plutôt mis en pratique sur les personnes qui comprennent vraiment ce que c'est, qui sont plutôt dans les équipes de management, etc. Après, pour des équipes plus petites ou qui ont une vision différente de l'actionnariat, pourquoi pas généraliser les BSPCE. Après, ça peut devenir assez compliqué à gérer sur des aspects légaux, transparence, des données de la société, etc.
Ça, c'est une question. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as une part de la boîte, est-ce que tu as forcément du coup accès au bilan, à des choses comme ça?
Oui, si c'est une part, on va dire, vestée, hein, donc c'est pas simplement des BSPCE, mais ce sont des vraies actions en dur, oui, tu as forcément accès à pas mal d'informations sur la société. Pas que ce soit un problème en soi, mais bon, je pense que ça peut compliquer, en fait, le management, parce que c'est un métier de savoir lire un bilan. Il m'est arrivé de proposer des BSPCE à des salariés ou de l'actionnariat, on va dire, important dans une aventure entrepreneuriale, et que les personnes ne soient pas à l'aise avec ça, parce que préférer être salarié et avoir un outil de rémunération et simple, qu'ils comprennent, ouais. Forcer du BSPCE pour des gens qui ne comprennent pas, qui ne valorisent pas vraiment ce que c'est, voilà, j'ai des doutes là-dessus. Après, c'est mon avis personnel.
Non, c'est sûr, c'est super compliqué. Et du coup, dans le côté sales, la rémunération variable, elle est, j'ai l'impression, quand même beaucoup plus facile. Bon, déjà, c'est plus culturel, plus facile à mesurer, parce qu'il y a une transaction à la fin. Est-ce que toi, ce côté variable sur performance, tu l'appliques dans tous les départements?
On a essayé de l'appliquer dans tous les départements. Il y a des départements où c'est plus difficile quand même. Les départements techniques, c'est plus difficile d'avoir une rémunération variable avec du quantitatif mesuré sur l'output de code, sur les fonctionnalités que tu livres. La qualité du code, c'est assez difficile. Je préfère gérer ça en objectif OKR, comme on le disait. Voilà, par exemple, sur une app mobile, c'est au moins une release par semaine. Je préfère le gérer en OKR, mais pas forcément lié à la rémunération. Pas forcément, parce que il peut se trouver que une semaine, on a une fonctionnalité qui est livrable en moins d'une semaine, et puis parfois, cette fonctionnalité où on va prendre le temps de la développer entièrement, et va prendre deux semaines.
Parce que ce que je trouve super dur, moi, avec la REM, c'est que l'intention de base de l'entrepreneur, c'est souvent de motiver, et qu'il y a plein de modèles qui, au final, s'avèrent générer plus de problèmes et de motiver les mauvais comportements, en plus.
Et ça évolue beaucoup, hein, en fait, ces derniers temps. C'est pour ça que tu n'as pas une réponse unique sur comment on rémunère les équipes dans les startups qui se disent à la pointe de ce qu'il faut faire et des bonnes pratiques. Je pense que ça évolue très vite et aujourd'hui, on se rend compte, ça a toujours été le cas, mais on s'en rend encore plus compte que la quête de sens d'un salarié est importante et que, en général, quand on s'en va, c'est pas forcément parce que le salaire ne convient pas, c'est pour plein d'autres raisons. Je préfère travailler sur ces autres raisons, pas minimiser le salaire. Il faut avoir un salaire qui soit fair pour le marché, que tout le monde soit ait l'impression d'être à la fois bien rémunéré et de bien rémunéré si tu es employeur. Mais par contre, tous ces débats-là sont forcément importants. Hein. C'est quelque chose qui touche tous les salariés, tous les employeurs, comment on est rémunéré ou comment on rémunère. Par contre, l'important est aussi sur le sens de pourquoi on est dans cette société, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, est-ce qu'il n'y a pas une bonne ambiance, tout ce qui est non écrit et qu'on ne va pas retrouver sur un bulletin de salaire et qui va faire qu'à la fin, tu restes ou tu continues dans la boîte.
C'est clair. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont bien marché pour toi en termes de culture, créer une expérience du salarié qui soit waouh?
Oui, la culture, c'était quelque chose de fascinant quand on se met du côté du fondateur aussi ou de cofondateur d'une société. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas minimiser l'impact, l'importance de la personnalité d'un fondateur dans la culture de la société. Par contre, je pense qu'il faut avoir aussi le recul nécessaire pour se dire que la société, ce n'est pas que les fondateurs. Donc, si je prends un exemple concret, Sticky Ads, donc ce qui a donné lieu au livre Get Shit Done. Get Shit Done, c'était le motto qu'avait choisi l'équipe pour caractériser ce que ça voulait dire d'être chez Sticky Ads. C'est pas les fondateurs qui se sont dit on a une culture de l'exécution et ça va s'appeler Get Shit Done. C'est venu des équipes qui n'avaient pas forcément le livre de productivité, mais qui valorisaient le fait que de se sentir bien chez Sticky Ads à l'époque, c'était d'avoir cette culture d'exécution et de réussir à délivrer et de le faire ensemble. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai été assez instrumental chez Sticky Ads pour définir de manière, on va dire, un peu démocratique, en laissant s'exprimer tout le monde sur quelles sont les valeurs, qu'est-ce que ça veut dire de travailler à la société, et de laisser un peu la main. On avait même fait un vote, on avait donné 10 maximes à la fin qui définissaient ce que ça voulait dire chez Sticky Ads, mais c'est les salariés qui les ont choisis et qui ont voté, en fait. C'est pas le management ou les cofondateurs qui se sont dit « bon, ça va être ça ». Que je pense que si tu le fais comme ça ne veut rien dire, en fait. Donc, bien laisser s'exprimer ces équipes et essayer d'écouter ce qu'elles veulent dire, en fait.
Question courte, réponse courte. Un de tes livres préférés, un livre business, et si tu en as d'autres
J'ai adoré le livre de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, sur Thinking Fast and Slow. C'est un livre qui est intelligent, complexe, qui a beaucoup d'exemples, qui fait vraiment comprendre comment résonne l'être humain et ce qui permet de prendre une bonne décision. Donc j'adore ce livre.
Tu donnes des livres, toi, à tes équipes?
Oui, je donne des livres qui ne sont pas forcément des livres de business aussi. Enfin, la dernière fois, j'ai offert Le Grand Cœur à un des collaborateurs de Jean-Christophe Ruffin. Donc il y a un livre qui romance un petit peu l'histoire de Jacques Coeur. Je sais que ce collaborateur est fan d'histoire. Moi, c'est un livre que j'ai adoré récemment. Ben, il m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié le livre, donc je suis content.
Tu as une citation préférée? Une phrase que t'aimes te dire?
Moi, j'aime bien Perfection is speed. J'aime bien aller vite, en fait. Sous mes aspects, je prends mon temps pour m'exprimer. En fait, je suis un faux calme et j'adore aller vite. L'une de mes passions, c'est le sport automobile. Le sport automobile, faire un tour rapide, c'est quelque chose d'assez complexe dans un cerveau humain, en fait. Parce que vous oscillez constamment entre l'excitation de faire le tour rapide et le stress de rater son tour. Cette ligne qui est très très fine sur la performance, elle a beaucoup de déclinaisons dans le business ou dans la vie de tous les jours, en fait.
Tu dois adorer, si tu ne l'as pas vu encore, le documentaire Formula One.
Oui, il est très bien parce qu'il a permis de démocratiser aussi une passion que moi j'ai depuis longtemps.
Et ça illustre ce truc, tu vois qu'ils sont, s'ils veulent trop aller vite... Bah, ils peuvent perdre la course, totalement.
Complètement, et puis on voit que c'est un travail d'équipe aussi, parce qu'on a tendance à mettre sur un piédestal les pilotes, qui ont un métier effectivement qui les met en avant, mais il y a des équipes de plusieurs centaines de personnes derrière eux.
Ouais, moi j'adore ce documentaire, on pourrait en parler d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un mauvais conseil que tu penses qu'on donne trop souvent aux entrepreneurs?
Il y a deux conseils que j'aime pas trop aux entrepreneurs. Le premier, c'est qui est d'aller trop vite en fait, de fail fast et learn fast. Je trouve que c'est bien, mais je pense que c'est bien aussi dans le métier d'entrepreneuriat qui est difficile d'apprendre ce que c'est que la persévérance. Il y a quand même énormément de succès récents sur le marché qui ont fonctionné au bout de plusieurs années. Nous, chez Stickaz, on l'a connu. Pendant 3 ans, on avait un bon business, mais il est devenu un business avec beaucoup de scale et de super croissance au bout de 3 ans. Donc, on a mis 3 ans à trouver. Je crois que Notion, hein, l'outil de gestion de connaissances dans une équipe que beaucoup de startups utilisent aujourd'hui, ils ont mis 4 ans à trouver ce qu'on appelle le product market fit. Donc, ce conseil qui vise à essayer une chose pendant 1 mois ou 2 ou 3 et puis passer à autre chose, je trouve que c'est dommage, on perd beaucoup d'énergie là-dedans. Moi, ce que j'aime pas aussi, c'est le fake it until you make it. Ça me dérange de vendre quelque chose qui n'existe vraiment pas et une promesse dont on n'est pas sûr qu'on va pouvoir l'honorer. Ça me dérange fondamentalement. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément un bon conseil. Même si je pense qu'elle a dû rendre service à pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi grâce à ça, je suis pas sûr que ce soit un conseil qui fonctionne tout le temps.
Est-ce que tu as une app préférée?
Moi, j'adore courir parce que ça me permet de me retrouver, de réfléchir. J'utilise Strava, qui est une app qui a une histoire assez particulière puisque je crois que c'est Lance Armstrong qui avait réussi à faire un record. C'est une app qui s'adressait aux cyclistes avant de s'adresser aux runners. Il avait réussi un record sur... un sommet aux États-Unis et quelqu'un l'avait battu à plate couture un jour, ce qu'il pouvait voir dans Strava. Ce qui a rendu l'app populaire, c'est que Strava fait la recherche de la personne qui avait battu Lance Armstrong. Il dit que c'était pas possible. Et en fait, oui, cette personne avait triché. Donc, ça m'a fait découvrir Strava, cette petite anecdote. Je l'ai utilisée et j'aime beaucoup cette app qui s'adresse à la fois à des populations de marathoniens de 50 ans et à la fois à des jeunes pratiquants de sport qui ont 20 ans, qui a l'air de convenir à des populations finalement très très diverses.
Tu dors combien d'heures en moyenne?
J'ai eu une période où je dormais pas beaucoup, j'avais pas besoin de plus de 5 ou 6 heures de sommeil. Maintenant, je fais attention à mieux dormir et je trouve que ça me réussit mieux. Combien d'heures? Je sais pas. Avec 7 heures, je suis très très bien aujourd'hui.
C'est quoi un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné?
Moi, je pense que le meilleur conseil business qu'on m'ait donné ou que je puisse donner, c'est qu'en fait, le business, c'est de l'apprentissage, en fait. Toujours se dire qu'on ne sait pas, ça paraît très antique, en fait, ça vient de Platon, mais se dire que l'humilité ou la sensibilité est une force, en fait. Quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses ou qui reconnaît qu'il est moins bon à un moment donné, je pense que c'est une grande preuve de force. Je sais pas si c'est un conseil qu'on m'a donné, mais en tout cas, moi, c'est le conseil que j'adore donner et que je l'applique au quotidien.
Eh ben écoute, merci Gilles, c'était un super échange. Merci en tout cas.
Merci à toi David.